Bonjour, donc ce cours numéro 6, je vais continuer à parler un peu du fil rouge de ce cours, d'effets collectifs, de crise, de discontinuité, en commençant par donc vous présenter une galerie de portraits, en quelque sorte, une galerie de collections, de crises ou de discontinuités de toutes sortes, certaines inspirées des sciences sociales, d'autres de la physique, des marchés financiers. Et ensuite, vous présenter quelques idées théoriques, dont un modèle en particulier, qui permet d'avoir une vision unifiée de la possibilité justement d'apparition de ces discontinuités, de ces effets collectifs en physique, mais aussi en sciences sociales. Donc peut-être qu'un des exemples les plus connus de crise ou de krach, c'est ce qui s'est passé en 1929, où après, donc, ce que vous voyez donc, en haut à gauche, c'est l'indice boursier américain, Dow Jones, qui monte considérablement avant 1929, et puis qui, en une seule journée, perd 20% de sa valeur et qui descend ensuite à un niveau qui correspond pratiquement à 90% de baisse à partir du pic. Et en fait, le niveau de la bourse retrouve son niveau pré-crack en 1954. Donc il n'est même pas sur cette figure. Donc on a un événement extrêmement massif de retournement d'opinion, en quelque sorte. Alors, vous voyez que juste après le krach, l'indice semble remonter un petit peu, mais finit par redescendre et s'effondrer complètement. Donc, on a un vrai retournement d'opinion, de sentiment collectif à l'occasion de cette crise. Sur le graphe en haut à droite, plus récemment, donc la crise de 2008, et ce que vous voyez ici, c'est la trajectoire de ce qu'on pourrait appeler une jauge de méfiance interbancaire, c'est-à-dire c'est la différence entre le taux auquel se prêtent les banques au jour le jour, le LIBOR, London Interbank Offered Rate, vous savez que les banques ont besoin, ont des surplus ou des besoins de liquidités quotidiens, donc le réseau bancaire s'entraide en quelque sorte, moyennant un taux d'intérêt qui est déterminé au jour le jour. Et donc ce que vous voyez, c'est la différence en rouge entre ce taux de prêt interbancaire et le taux 10 ans, réputé fiable. Et donc, on a tout d'un coup, après la crise de Lehman, une explosion de cette différence entre les deux taux qui montre que tout d'un coup, les banques ne se font plus confiance mutuellement, même au jour le jour, pour récupérer de l'argent prêté. En bas à droite, l'indice de confiance des consommateurs en Allemagne entre 1978 et 2009. Donc, ça fluctue, mais vous voyez effectivement que cette crise interbancaire se transmet rapidement vers une crise de confiance des consommateurs avec un effondrement de la confiance en Allemagne contemporain à cette crise de Lehman. Alors un des thèmes du cours et un des thèmes de cette recherche, c'est d'essayer de faire la distinction entre des chocs de nature exogène et des chocs de nature endogène. Et vous verrez que dans certains cas, la distinction n'est pas facile. Il y a probablement une part de l'un et de l'autre. Clairement, un exemple de choc exogène, en tout cas exogène au secteur économique lui-même, c'est ce qui s'est passé en 2020, l'année dernière, le choc du Covid, où on voit un effondrement de la confiance en Australie, qui lui est très clairement expliqué par un événement extérieur. D'autres exemples, excusez, un petit bug ici. En haut à gauche, quelque chose d'un petit peu plus abstrait peut-être, c'est donc la corrélation mesurée sur 100 jours entre un indice action et les obligations. Alors vous savez qu'une obligation monte quand le taux baisse, et en général, un taux qui baisse, c'est considéré comme favorable pour les entreprises, donc pour la bourse. Donc on a en général une corrélation positive entre actions et obligations, et effectivement, historiquement, on a cette corrélation qui est positive. Là, vous la voyez jusqu'à 1997. Et en 1997, il y a une crise en Asie, appelée la crise asiatique. Et tout d'un coup, cette corrélation change de signe et devient négative. Autrement dit, quand les actions baissent, les obligations montent, ce qui est appelé un mode flight to quality, les gens craignant que le système financier ou la bourse ait des problèmes se réfugient sur du papier gouvernemental réputé sûr. Alors, il se trouve que cette courbe s'arrête en 2003, mais depuis 97, depuis fin 97, et cet événement extrêmement brutal, en quelques semaines, cette corrélation change de signe, est restée persistante, négative depuis lors, jusqu'à en fait ces derniers mois, où en fait ces derniers mois, on voit une corrélation qui repasse du côté positif. On est plutôt autour de zéro actuellement, mais on a l'impression d'un quelque sorte d'un retournement du champ magnétique terrestre de temps en temps, une convention qui s'inverse. Les actions et les obligations sont... La convention est souvent qu'elles soient positivement corrélées, mais on peut avoir une nouvelle convention de marché où cette corrélation est négative. Donc, comprendre comment un tel retournement brutal est possible est une question très intéressante. D'autres exemples, par exemple la chute de la natalité en Europe, qui a été aussi discutée dans les articles de sociologie et d'économie. Donc évidemment, à la fin des années 60 apparaît la pilule contraceptive, mais quand on regarde la chute de la natalité dans les pays européens, on voit une trajectoire très différente. Dans certains pays comme l'Allemagne, la natalité s'effondre très très vite, en quelques années, et au Portugal, on a plutôt une tendance beaucoup plus molle, avec une évolution sur une vingtaine d'années. Alors, ce que vous voyez dans l'insert, c'est une dérivée numérique de ces courbes. J'y reviendrai plus tard. C'est souvent intéressant d'analyser justement la dynamique de ces courbes via leur dérivée. Autre exemple, peut-être plus anecdotique, mais qui est intéressant du point de vue conceptuel et du point de vue justement de la modélisation, c'est ce qui se passe pendant la phase finale d'applaudissements après des concerts, par exemple. Et donc, ce que je vous montre, ce sont des données réelles de chute des applaudissements à la fin de concerts donnés à la Maison de la Radio à Paris. Et ce qu'on observe, c'est que, dépendant des cas, on peut avoir une extinction des applaudissements qui est très lente, très molle, où les spectateurs s'arrêtent individuellement les uns après les autres d'applaudir, mais sans accélération. Alors qu'au contraire, dans d'autres cas, un effet qu'on interprétera comme la peur de se retrouver tout seul à applaudir, on peut avoir une extinction extrêmement brutale de cette salve d'applaudissements. Alors, des exemples très spectaculaires de chute de confiance, c'est par exemple la chute de confiance dans la monnaie. Et là, ce que vous voyez, c'est l'inflation en Allemagne après la Première Guerre mondiale, où on voit la valeur du mark, enfin le nombre de Deutsche Mark pour arriver à une valeur constante pré-crise. Et donc, le Deutsche Mark le Reichsmark se déprécie. Et puis, tout d'un coup, il y a vraiment, notez l'échelle logarithmique sur l'axe des Y, il y a tout d'un coup une explosion où on a une valeur dépréciée d'un facteur 1 milliard. D'ailleurs, on insère, j'ai aussi reproduit la valeur des assignats pendant la Révolution française, où on l'oublie parfois, mais on a aussi une période d'inflation intense après 1789. Autres exemples, alors celui-là tiré de la physique, mais qui me semble aussi très très intéressant pour comprendre justement ce qui peut se passer de façon collective dans des assemblées en interaction. Je vous ai représenté ce qui se passe quand on tire sur un matériau. Donc sur l'axe des X, c'est le déplacement imposé, et sur l'axe des Y, c'est la contrainte qu'il a fallu appliquer pour arriver à déformer le matériau d'une certaine quantité, en pourcent ici. Donc l'axe des X, c'est en pourcent de déformation. Et alors, ce que vous voyez, c'est deux types de phénoménologie. La première, c'est ce qu'on appelle la rupture fragile, où on a une déformation qui est linéaire dans la contrainte jusqu'à une certaine contrainte seuil, et puis tout d'un coup, la rupture du matériau. Et cette fois-ci, sans précurseur, donc effectivement, la rupture fragile se fait sans crier gare. Alors qu'au contraire, on a d'autres matériaux dits ductiles, où on a un aplatissement de cette courbe contrainte-déformation, qui fait qu'à un moment, effectivement, le matériau cède, mais de façon en quelque sorte beaucoup plus continue. Il y a un point au-delà duquel, effectivement, le matériau n'est plus capable de maintenir une contrainte pour une déformation donnée. Alors, je vous ai parlé d'effondrement, mais il y a d'autres exemples qui vont dans l'autre sens, en quelque sorte, qui sont ce que j'appelais ici des surgissements. Alors, par exemple, la façon dont une nouvelle technologie est adoptée dans une population. Alors, ici, j'ai retenu que quelques exemples, mais si vous allez sur le site Our World in Data, on a beaucoup plus d'exemples de technologies qui envahissent en quelque sorte la population des consommateurs. Donc ici, je vous ai représenté par exemple l'électricité dans les foyers, donc en pourcentage des foyers concernés. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai la télévision couleur, les ordinateurs et les smartphones. Alors évidemment, ces courbes ne sont pas complètes, on ne voit pas en particulier le démarrage, ce qui est ennuyeux pour les analyser. Pour les téléphones portables, on a des données un petit peu meilleures qui permettent en effet d'avoir aussi le démarrage, mais elles n'existent pas sur cette base de données-là. En revanche, ce que vous voyez un peu à l'œil nu, c'est effectivement, on a l'impression d'une accélération, d'une réification de ces pentes au fur et à mesure du temps. Enfin, peut-être pas de façon systématique, mais le smartphone a l'air d'envahir les ménages beaucoup plus rapidement, même que l'ordinateur ou la télévision couleur. Autre exemple, peut-être anecdotique, mais que je trouve très intéressant, et qui est celui du nombre de fois qu'un prénom est donné dans la population française en fonction des années. Et donc ici, on a l'exemple de Stéphanie, qui a atteint un pic de plus de 23 000 Stéphanie en 1972 ou 73, avec une dynamique très intéressante, avec une montée extrêmement brutale, et puis une redécroissance ensuite, après le pic. Alors, ce qui s'est passé, c'est évidemment que la princesse de Monaco, Stéphanie, est née en 1965, donc ça a clairement eu un effet sur la population, mais ensuite, on peut imaginer que au-delà de ce choc exogène, en quelque sorte, on puisse avoir une amplification qui est de nature endogène, puisque le choix d'un prénom est aussi quelque chose qui est soumis à une discussion entre amis ou en famille, et peut donc conduire à ces effets d'accélération. Apparition de mots dans les ouvrages publiés, ici donc Benoît de Courson m'a donné ses graphes récemment. Donc par exemple, ici, quand on regarde le mot « hygiène » ou ses dérivés, en fonction du temps, la fraction d'ouvrages où ce mot apparaît croît progressivement, et puis juste un peu avant 1850, semble avoir une espèce de discontinuité. Tout d'un coup, ce mot devient répandu de façon courante dans les ouvrages publiés. Et alors, vous voyez que cette dynamique, en fait, dépend du mot considéré. Par exemple, le mot téléphone, lui, a une croissance beaucoup plus molle. Donc, on retrouve un petit peu ici cette différence entre applaudissements qui s'éteignent brutalement et applaudissements qui s'éteignent régulièrement, mais dans l'autre sens. Alors, on peut voir de façon peut-être un peu cruelle que ce mot a une vie hygiène qui se poursuit au XXe siècle, et en particulier pendant les deux guerres, on a une baisse de la fréquence d'utilisation de ces mots dans la littérature. Alors, autre exemple, à nouveau, peut-être anecdotique, mais qui me semble intéressant du point de vue de la modélisation, les lovelocks, ces objets que les gens accrochent sur le pont des Arts. Donc, à l'époque, j'avais la chance de traverser le pont des Arts tous les matins pour me rendre au travail, et j'ai vu vraiment personnellement cette explosion de lovelocks sur le fond des Arts en l'espace de quelques semaines. Il y en avait très peu, et puis tout d'un coup, il n'y avait plus de place pour en mettre aucun. Et donc, on a vraiment l'impression à nouveau d'un phénomène auto-entretenu où les gens veulent mettre leur lovelock parce que d'autres l'ont déjà mis. Autre exemple que vous connaissez bien, c'est la ola dans les stades, ou ce qu'on appelle Mexican Wave, où de façon intéressante, on voit réellement ce phénomène de surgissement, puisque souvent, certains groupes essayent d'initier ces vagues sans y arriver, Et puis à un moment, une nucléation, un nombre suffisant, un groupe suffisant qui se synchronise et qui initie réellement cette vague qui se propage dans le stade. Et alors pour comprendre, enfin pour se rendre compte qu'il s'agit réellement d'un effet collectif non trivial, remarquez le fait que cette vague peut a priori se propager dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Et en réalité, il y a une brisure de symétrie, comme dans les exemples physiques où on a justement ces phénomènes collectifs. L'onde de Hola choisit une direction et donc brise cette symétrie a priori entre gauche et droite. Alors, d'autres exemples plus dramatiques, les émeutes, la façon dont les émeutes naissent et se propagent, qui a intéressé les sociologues depuis les années 70, Granovetter, Schelling, enfin, en tout cas d'un point de vue plus quantitatif, et plus récemment le groupe de Jean-Pierre Nadal et Henri Beresticky, sur l'exemple des émeutes après les événements de Clichy-sous-Bois en 2005. Et vous voyez une dynamique qui ressemble un peu à d'autres types de surgissements dont j'ai parlé jusqu'à présent. Donc avant la mort des deux adolescents, évidemment, il y a très peu d'événements. Et puis ensuite, il y a une vague d'émeutes qui, en fonction du temps, atteint un pic et redécroît. Donc ça, c'est dans le département 95. Mais dans le nord, dans le département 59, vous voyez qu'il y a un délai entre le moment où les événements se produisent et le moment où les premières émeutes démarrent dans le département. Donc il y a réellement une phase d'initiation qui n'est pas liée, dans ce cas-là, directement à l'événement déclencheur, mais qui est liée à une propagation et effectivement une nucléation plus complexe. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, comme je vous ai dit, ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, certains événements sont induits par un choc exogène clairement identifié. Dans d'autres cas, c'est beaucoup moins clair, voire c'est pas clair du tout. Et donc, on a l'impression qu'il y a deux cas extrêmes, des cas de sauts déclenchés par des événements exogènes et d'autres engendrés par la dynamique propre du système et probablement aussi un continuum entre les deux, avec de temps en temps des événements exogènes qui induisent ensuite une accélération. Et là, donc, je vous montre certaines données qui ont été analysées par le groupe de Didier Sornette à Zurich, en particulier donc, les ventes sur Amazon, les ventes quotidiennes de livres sur Amazon. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont deux exemples bien identifiés. Le premier où l'auteur du livre passe à la télévision. Et donc, au moment de son passage, il y a clairement un choc exogène, en quelque sorte, qui fait que le nombre de ventes augmente et puis redécroît ensuite. Et puis, dans le deuxième cas, rien de particulier se passe. On a l'impression que c'est un effet de bouche à oreille qui, progressivement, conduit à un intérêt pour le livre, un peu comme le cas des prénoms tout à l'heure, qui ensuite redécroît vers un niveau de base plus bas. Alors, il a aussi analysé de façon quantitative, mais là je vous montre simplement des graphes qualitatifs, le nombre de vues sur YouTube, donc avec beaucoup de données. Dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de données sur lesquelles faire ces analyses statistiques, vente de livres sur Amazon ou vues sur YouTube. Et vous voyez à nouveau des cas où le nombre de vues augmente sans raison apparente, à cause d'une propagation d'un effet de contagion, en quelque sorte, sur Internet. Et puis, dans d'autres cas, la vidéo apparaît et est accompagnée d'une publicité qui fait que l'intérêt monte de façon brutale et redécroît ensuite. Alors, ce qui est intéressant et assez remarquable, je trouve, c'est qu'on a aussi la même phénoménologie concernant les sauts de prix dans les marchés financiers. Donc, ce que je vous montre ici, ce sont des données donc récente de Riccardo Marcaccioli, qui a refait une analyse qu'on avait déjà faite en 2008, mais de façon plus quantitative. Et ce que vous voyez, c'est donc qu'en effet, sur les marchés financiers, comme je l'avais mentionné pendant les premiers cours, on a deux types d'événements importants, des sauts de prix à quatre écarts types, disons. Certains qui sont induits par une nouvelle qui tombe sur les téléscripteurs, et donc, rien ne se passe avant. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la volatilité en fonction du temps. Et donc, avant le saut de prix, avant la nouvelle, cette nouvelle est non anticipée, donc il ne se passe rien de spécial. Et puis, tout d'un coup, on a une explosion du prix, à la hausse ou à la baisse, et ensuite une redécroissance de la volatilité. Et dans d'autres cas, au contraire, ces sauts de prix, alors en fait, dans d'autres cas qui sont les plus nombreux, puisque 90 ou 95% des sauts de prix à plus de 4 sigma ne peuvent pas être associés à une nouvelle identifiable. Là, au contraire, on a une montée pré-crise, pré-saut, et une redescente à peu près symétrique, un peu ce qu'on voit d'ailleurs dans le cas de la vente des livres ou dans le cas des vues sur YouTube. Alors, ce sont des affirmations qu'on peut rendre plus quantitatives, et en effet, l'ajustement de ces données par des courbes de modèles, disons, conduisent à des conclusions très similaires dans tous ces cas. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous présenter un modèle très stylisé qui peut expliquer que dans certains cas, les courbes de surgissement ou d'effondrement sont continues, alors que dans d'autres cas, elles font apparaître des discontinuités. Donc pour ça, je voudrais vous parler d'un modèle qu'on appelle le Random Field Ising Model, qui est donc un modèle qui a été introduit en physique pour décrire des aimants désordonnés, et en particulier des courbes d'aimantation de ces aimants désordonnés. Mais vous allez voir que c'est donc un modèle générique qui conduit à une transition entre un régime individuel et un régime véritablement collectif où ce type de discontinuité peut apparaître. Alors, le modèle donc, peut être lu soit comme un modèle de magnétisme où les variables SI décrivent l'orientation de chaque spin, de chaque aimant élémentaire dans le matériau. Donc, SI vaut plus ou moins 1, mais peut décrire tout un tas de situations de décisions binaires ou de sentiments binaires, confiance, défiance, achat, vente sur les marchés financiers, aller voter ou s'abstenir, j'en parlerai tout à l'heure, etc. Et donc, en fait, je vais vous raconter l'histoire parce que c'est plus facile de mettre des mots sur les symboles en vous parlant d'adoption de technologies, donc par exemple de la façon dont les téléphones portables ont envahi le marché à la fin des années 90. Donc, SI égale 1, c'est j'achète un téléphone portable, et moins 1, je ne l'achète pas, je n'en possède pas. Et donc le modèle RFIM consiste à postuler que la décision de l'agent I au temps T est le résultat de trois effets différents. Donc SI étant un signe plus ou moins 1, ça sera le signe de la somme de trois quantités. Une première quantité, petit h i, qui est la propension individuelle à acheter un téléphone portable. On va supposer que cette propension est hétérogène dans la population. Donc H va être distribué selon une certaine distribution rho de H quelconque, disons une gaussienne par exemple, ou de façon simplifiée un objet avec une seule bosse. Alors, on pourrait considérer que dans certains cas on a besoin de deux ou trois bosses, mais pour simplifier, supposons que rho de H est une gaussienne. Et donc cette propension est statique, elle ne varie pas dans le temps. Donc, dans le cas des téléphones portables, vous savez que dans une population, les gens qui sont très friands de nouvelles technologies, donc qui achètent tout de suite les nouveaux gadgets, alors que d'autres, au contraire, ils sont complètement imperméables. Donc, on aura une distribution de petit h qui, disons, va de moins l'infini pour les plus réticents à plus l'infini pour les plus excités. Ensuite, un terme qui va dépendre du temps, que j'ai appelé grand H ici, grand H de T, on pourrait appeler l'information publique. Donc par exemple, dans le cas d'une technologie, ça serait quelque chose qui est grosso modo la qualité de la technologie moins le prix de le coût de cette technologie. Donc par exemple pour les téléphones portables, clairement, dans les années 90, on a eu en parallèle une augmentation de la qualité. Au début, on n'entendait rien, c'était extrêmement bruité, etc. Et c'était très cher. Et très rapidement, la qualité s'est améliorée et les prix ont baissé. Et puis finalement, un terme qui est évidemment le nœud du sujet, qui est une pression sociale, donc qui est l'influence qu'ont les autres sur votre décision ou non d'acheter un téléphone portable, d'avoir des enfants, d'avoir confiance ou pas confiance, etc. Et donc, qui est une somme sur J, une certaine matrice d'interaction JIJ, qui donc médie la décision de votre réseau social au temps t-1. Donc on aura grand N agent dans la suite de l'exposé, et on voudrait comprendre ce que la dynamique décrite par la somme de ces trois termes engendre. Et ce que vous allez voir, c'est justement qu'elle engendre une dynamique qui est très, très intéressante, avec possibilité d'équilibre multiple, d'hystérèse, c'est-à-dire de dépendance en histoire, mais aussi donc, de discontinuité et d'avalanche, c'est-à-dire la possibilité que, dans certains cas, la décision d'un seul agent supplémentaire d'acheter, par exemple, peut conduire à une vague d'achat médiée par justement ce terme de pression sociale. Alors, évidemment, de façon analytique, en général, si on ne dit rien sur cette matrice d'interaction JIJ, on ne peut pas aller très très loin, mais on peut comprendre de façon relativement fidèle ce qui se passe dans le cas général en considérant une situation dite de champ moyen où tout le monde interagit avec tout le monde, ou autrement dit, chaque individu connaît finalement la moyenne de l'action des autres. Donc, ce qui est une situation qui, souvent, est relativement réaliste. Vous pouvez penser à des sondages. Les sondages, justement, donnent à chacun une représentation de l'opinion des autres, ou le prix sur un actif financier qui est censé représenter, justement, un vote, en quelque sorte, des acteurs financiers, ou bien les applaudissements dans une salle de concert qui est très bien sonorisée, où chacun entend ce que fait tout le monde. Donc dans ce cas-là, on peut résoudre le modèle entièrement, et ce qu'on trouve comme dynamique, c'est donc en fonction de grand H de T, donc grand H augmente dans mon exemple de téléphone portable quand le prix diminue ou quand le niveau de technologie augmente. Et donc ce qu'on trouve dans ce modèle, c'est qu'en fonction de la force de cette interaction sociale, de cette influence qu'ont les autres sur votre propre décision, on a deux types de courbes très différentes qui peuvent apparaître. Une courbe bleue qui correspond au cas où J est inférieur à une certaine valeur critique, JC, par exemple J égale 0, où dans ce cas-là, l'interaction sociale est relativement négligeable ou un impact qualitatif faible. Et ce qu'on trouve, la courbe bleue reflète la courbe de demande spontanée de la population sans interaction. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au début, seuls les aficionados achètent. Ensuite, quand on se rapproche du maximum de la courbe rho de H, on a, qui est la dérivée de cette courbe pour J égale 0, on a donc une pente maximum. Et ensuite, les retardataires finissent par se laisser convaincre. Alors, quand on augmente J et qu'on se rapproche de cette valeur critique JC, qui est d'ailleurs proportionnelle, c'est ce que j'ai écrit ici, à sigma étant la largeur de cette distribution rho de H dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc rho de H est caractérisé par une largeur. Par exemple, si c'est une gaussienne, sigma carré est la variance de cette gaussienne. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette valeur critique, la courbe qui est au départ molle se raidit de plus en plus jusqu'à faire apparaître un point de dérivée infinie. Et au-delà de ce point de dérivée infinie, qui est le point J égale JC, la courbe se déforme totalement, puisque au lieu d'avoir un seul équilibre pour chaque valeur de H, on peut avoir trois équilibres, ou un seul. Si H est très petit ou très grand, on retrouve une courbe avec un seul équilibre. Mais dans un régime intermédiaire de H, on a donc trois équilibres, dont un instable, un équilibre où personne n'achète de téléphone portable parce que personne n'achète de téléphone portable, et un équilibre au contraire où tout le monde en achète parce que tout le monde en achète. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir une montée douce, une montée lisse, on a un point de singularité où tout d'un coup, l'équilibre basse consommation, en quelque sorte, disparaît, et un saut collectif, donc une fraction fini de toute la population, dans la limite où n tend vers l'infini, décide au même moment, alors évidemment c'est très stylisé ici, il faudrait introduire des effets de retard, etc., il faudrait introduire un effet temps explicite, mais dans le modèle, la population, une fraction finie de la population décide collectivement de passer d'un état SI égale moins 1 à un état SI égale plus 1. Alors ce que vous voyez ici, c'est aussi quelque chose qui est très important, qui est l'effet d'hystérésis dont je parlais tout à l'heure, qui est l'effet donc de dépendance dans la mémoire. Quand on est dans cette situation où on a trois équilibres, il faut aussi spécifier l'histoire du système pour savoir sur quelle branche on se trouve. Donc si on part, par exemple, d'un état où tout le monde a choisi moins 1 et qu'on augmente progressivement h de t, on reste sur la branche faible consommation, basse consommation, même si la branche haute consommation existe déjà, jusqu'au point où cette branche basse consommation disparaît. Et là, on saute brutalement sur la branche haute consommation. Et à l'envers, si ça avait du sens, évidemment dans ce modèle, ça n'en a pas, enfin dans l'application à l'achat de téléphone portable, ça n'a pas vraiment de sens, mais par exemple, dans le cas des aimants, ça a tout à fait un sens. On peut augmenter le champ magnétique, qui est l'analogue de ce H de T, et le rediminuer, et on parcourt la courbe dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus loin dans l'autre sens en champ magnétique pour permettre au système de rebasculer dans l'état initial. Donc on a cette boucle d'hystérésis qui apparaît, et qui apparaît juste à cette valeur critique J critique. Elle est, donc l'air de cette, sous la courbe, l'air enserré par ce cycle est nul pour J inférieur à JC, puisque la courbe n'est pas discontinue, et elle croît progressivement à partir de JC. Et puis notez que dans un modèle générique, on a aussi ici un petit précurseur, c'est-à-dire une accélération de la courbe avant le saut final, qui rappelle par exemple un petit peu ce que j'avais montré dans le cas d'utilisation du mot hygiène, où on a une accélération ici avant un saut brutal. Alors si on pense à ce modèle en termes de confiance dans les marchés, dans la valorisation des marchés d'actions par exemple, on pourrait imaginer qu'on parcourt le système dans l'autre sens au fur et à mesure que les nouvelles économiques deviennent de plus en plus mauvaises. Au départ, tout le monde continue à avoir confiance dans la valorisation haute du marché, et puis tout d'un coup, cet état n'est plus tenable et on peut avoir donc un modèle stylisé de crack, de perte collective de confiance dans la valeur du marché. Et donc à ce sujet, j'ai reproduit une phrase de Keynes qui réfléchissait justement à ces crises brutales. A conventional valuation which is established as the outcome of the mass psychology of a large number of ignorant individuals is liable to change violently as the result of a sudden fluctuation of opinion due to factors which do not really make much difference. Donc justement, dans ce modèle, ce qui est intéressant, c'est que ce point de disparition n'a rien de particulier. Il n'est pas dû à, en quelque sorte ici, à une nouvelle exogène. Il est simplement dû au moment où, dans le système, l'équilibre disparaît. Mais rien de particulier, y a aucune, dans le modèle, aucune particularité de ces valeurs de H a priori. Elles apparaissent comme des points critiques où les solutions disparaissent, mais elles ne sont pas liées à une propriété intrinsèque du système, en quelque sorte. Donc pour poursuivre un petit peu l'étude de ce modèle très riche, donc au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette valeur J critique, j'ai parlé de l'air enserré par le cycle, on peut aussi s'intéresser à l'amplitude de cette discontinuité, delta. Donc par définition, au moment où on touche cette instabilité, il n'y a pas de discontinuité, donc delta est zéro. Et on peut montrer que l'augmentation de cette discontinuité se fait comme la racine de J moins JC au voisinage de J. Et quand on est au voisinage de JC, on a toute une phénoménologie intéressante, et en particulier donc, cette présence d'avalanches de toute taille, d'avalanches dans le sens où le retournement d'un individu en entraîne d'autres, qui eux-mêmes en entraînent d'autres encore. Et en réalité, pour ce modèle, on peut faire une analogie mathématique rigoureuse avec ce qu'on appelle le processus de branchement, qui est donc un processus de dynamique de population très très simple, où on suppose que chaque individu peut avoir un nombre aléatoire d'enfants qui eux-mêmes ont un nombre aléatoire d'enfants, et on sait que lorsque le nombre moyen d'enfants par individu est égal à 1, on a une transition entre une population qui s'éteint sûrement vers un régime où, au contraire, cette population a une probabilité finie de survivre pour toujours. Et quand on est pile à ce point de critique du processus de branchement, on sait que la taille des familles, donc qui sont toutes finies, parce que la population finit par s'éteindre, est distribuée de façon très large, est distribuée comme 1 sur S à la puissance 3,5. Donc on introduit de la même façon, pour ce modèle RFIM, des avalanches de toute taille, dont la loi de distribution est une loi de puissance avec un exposant 3,5. Donc on a un scénario qui permet aussi de comprendre éventuellement d'où peuvent provenir ces lois de puissance observées dans les marchés financiers, par exemple. Alors, c'est un modèle extrêmement naïf et qui ne colle pas, par exemple, la valeur de l'exposant 3,5 ne correspond à rien de spécial dans les marchés financiers, mais en tout cas, c'est un guide éventuellement pour essayer de comprendre d'où peuvent provenir ces lois de puissance dans les phénomènes socio-économiques, et en particulier celui-là, a un intérêt particulier parce que, comme l'ont remarqué donc Damen et Setna, Jim Setna, qui a beaucoup écrit à ce sujet, il se trouve que pour ce modèle de RFIM, Random Filialising Model, la région critique, c'est-à-dire la région autour de JC qui permet l'observation de loi de puissance, qui permet l'observation d'avalanche de toute taille, etc., est particulièrement élevée. On n'a pas besoin d'être pile au point critique ou très proche du point critique pour observer ces phénomènes sans échelle caractéristique, etc. En particulier, ce qu'on voit ici, c'est que même quand on est à 20% en dessous de JC, on observe une assez grande plage sur laquelle la loi de distribution de ces avalanches se conforme à la prédiction pile au point critique. Donc, un argument qui est souvent invoqué, justement, qui est l'idée de la criticalité auto-organisée, sur laquelle je reviendrai au cours suivant, qui est que finalement, ces points critiques n'ont que peu d'intérêt, puisqu'il faut être pile au voisinage du point critique pour observer des lois de puissance. Dans certains cas, il y a une raison fondamentale pour laquelle en fait, le système s'auto-organise autour de ce point critique. On y reviendra donc la semaine prochaine. Mais dans d'autres cas, même sans avoir à imposer que le système se trouve au point critique, même si on est à une distance relativement importante, on peut continuer à observer ces effets critiques. C'était un peu le point des papiers initiaux de Jim Setna. Alors donc, je vous ai parlé de la solution de champ moyen. En réalité, pour un graphe quelconque, on garde la même phénoménologie. Donc, une phase J inférieure à un certain JC où on a un seul équilibre et des courbes d'adoption en S, donc des courbes d'adoption classiques. Il y a toute une littérature sur l'adoption des technologies qui suppose justement que ces courbes d'adoption ne reflètent que finalement la distribution des effets idiosyncratiques, le petit h dont je parlais tout à l'heure, la propension individuelle à acheter ou à adopter une technologie qui conduit donc à ces courbes en S qui reflètent donc la probabilité cumulée en quelque sorte de cette variable petit h. Mais donc dans ces modèles quelconques, si on a une interaction suffisante, quel que soit le graphe qui décrit ces interactions, on a possibilité d'un emballement divergent et des courbes d'adoption discontinues. Alors pour un graphe quelconque, pas tout à fait, il faut quand même que la connectivité soit suffisante. Par exemple, si on a un graphe purement unidimensionnel, où chaque individu ne parle qu'à deux voisins, l'un à gauche, l'autre à droite, avec une topologie unidimensionnelle, on perd cette phénoménologie. On est toujours dans le cas J inférieur à JC. Il ne peut pas y avoir d'effet collectif, en quelque sorte, quand la topologie du graphe est de dimension trop basse. Donc, à part ce détail, en quelque sorte, si on a un graphe quelconque, on aura toute cette phénoménologie dont j'ai parlé, des avalanches critiques, des exposants non triviaux, pas forcément égaux aux exposants du champ moyen. Par exemple, l'exposant de la distribution de la taille des avalanches ne vaut pas forcément 3,5, mais on a une accélération anormale de l'effondrement ou du surgissement. Et c'est ce que j'ai représenté ici, dans le cas du champ moyen. Donc, au lieu de représenter la courbe d'adoption, cette courbe en S, je trace ce qui se passe au voisinage du point critique pour la dérivée de cette quantité adoptée. Et vous vous souvenez, j'avais attiré votre attention au début sur le fait que j'avais représenté, par exemple, pour la chute de la natalité, non pas seulement ses courbes, mais leurs dérivées, qui sont bien sûr bruitées, parce que ce sont des dérivées de données bruitées elles-mêmes, ou pour la courbe des applaudissements, on peut avoir donc une dérivée qui est très plate si la chute se fait de façon progressive, ou au contraire, piquée quand on a une chute des applaudissements brutale. Et alors la prédiction de ce modèle au voisinage du point critique est donc qualitativement la suivante. On a évidemment un pic de l'augmentation de la vitesse d'adoption, puis ensuite une décroissance, comme on le voit dans beaucoup d'exemples que je vous ai présentés. Mais ce qui est particulier et qui est une signature de la présence d'interactions fortes, donc d'interactions qui mettent le système au voisinage de ce point critique, au-delà duquel cette dérivée en fait deviendra divergente au point de discontinuité, bien sûr, mais au voisinage du point critique où cette discontinuité n'est pas encore apparue, on a un effet très particulier qui est que, en général, la dérivée d'une quantité qui est bornée a une largeur inversement proportionnelle à sa hauteur, puisque l'intégrale de cette courbe, c'est justement l'amplitude de la variation qui, si elle est bordée, est d'ordre 1, disons. Donc on a, pour une courbe en S caractéristique typique, sans effet particulier, on a une largeur de la courbe W qui est simplement inversement proportionnelle à sa hauteur, ou réciproquement, la hauteur est inversement proportionnelle à la largeur. Ici, la signature donc, de cet effet critique, c'est que cette hauteur, la hauteur de la courbe, n'est pas proportionnelle à 1 sur W, mais 1 sur W puissance 2 tiers, le 2 tiers étant un exposant relié à l'approximation de champ moyen. Et donc, on peut essayer de tester cette prédiction en supposant que différents pays, par exemple, quand on parle du taux de fertilité ou de l'adoption des téléphones portables, correspondent à différentes distances à ce point critique. Tout le monde n'est pas exactement... les paramètres, disons, qu'on ne connaît pas, mais ne sont pas tous... ne donnent pas tous à tous les pays la même disons, criticalité, la même distance au point critique. Et donc on peut supposer que changer de pays change la distance entre J et JC et donc permet d'avoir des courbes de largeur différente et de hauteur différente. Et alors ce que vous voyez ici, ce sont donc des points en blanc qui correspondent donc à la vitesse d'adoption des téléphones portables en Europe, et en noir, la chute de la natalité dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors il se trouve que c'est intéressant de voir que en fait, les deux séries de points sont dans la continuité l'une de l'autre, comme si l'adoption des téléphones portables était le même phénomène que celui de la baisse de la natalité, mais à une fréquence plus rapide. Bien sûr, les temps d'adoption du téléphone portable ont été relativement rapides par rapport au temps de baisse de la natalité. Et ce que vous voyez en rouge et en bleu, ce sont donc en rouge la prédiction de ce modèle en supposant qu'on n'est pas trop loin du point critique. Comme je vous l'ai dit, la largeur de la région critique est assez importante, donc on peut même être à 30% du point critique et la prédiction moins deux tiers devrait être qualitativement valable. Donc c'est la courbe en rouge. Et la courbe bleue, c'est la prédiction naïve où la hauteur de la courbe est inversement proportionnelle à sa largeur. Alors, il n'y a pas beaucoup de points. Si on fait une régression directement sur chaque série de points, on trouve des exposants qui sont en effet proches de 2 tiers, mais malheureusement, on n'a pas assez de points pour réellement conclure. Alors, une des données un peu plus intéressantes, parce qu'un peu plus systématiques qu'on avait pu étudier à l'époque avec Quentin Michard, c'était justement cette fameuse chute des applaudissements à la fin des concerts. Et là, à nouveau, en supposant que, dépendant des audiences et des concerts, on est à des distances différentes du point critique. Vous voyez, ce qui détermine le point critique, c'est aussi la largeur de la distribution des idiosyncrasies, des idiosyncratismes. Donc, à nouveau, je reviens sur cette distribution de rho de H. On peut avoir une courbe très pentue, soit parce que rho de H est extrêmement... étroit, la distribution est très étroite, tout le monde réagit en même temps, même sans interaction, où on peut avoir une discontinuité ou une courbe d'adoption raide parce que rho de H est large, mais que l'effet d'interaction est fort. Donc, à nouveau, ici, il faut ne pas oublier qu'une courbe qui est très piquée peut vouloir dire simplement que tout le monde réagit de la même façon à l'information extérieure sans avoir besoin d'invoquer la, la pression sociale. Mais donc, pour revenir à mon histoire d'applaudissement, dépendant du type de concert, dépendant des audiences, on peut avoir une valeur de sigma qui est différente et donc une proximité au point critique qui n'est pas la même. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait ici. On a analysé donc, une petite vingtaine de fins de concert et à nouveau, la courbe rouge qui est la courbe de régression directe sur ces points est très proche de la prédiction moins deux tiers et la courbe bleue qui est la courbe naïve, disons, à nouveau n'est pas totalement exclue parce qu'on n'a pas énormément de points, mais du point de vue simplement des barres d'erreur sur les régressions, moins deux tiers est très clairement préféré. Donc, des effets dont on peut essayer de, en effet, de valider la nature collective via ce type d'analyse. Alors, je voudrais continuer sur ce modèle RFIM, mais dans un cadre un tout petit peu différent, avec, vous allez voir, une petite surprise que je trouve intéressante, qui est ce que j'ai appelé le problème du restaurant. Alors, il y a un article très fameux de Gary Becker en 1970 sur le problème du choix du restaurant en économie. Et ce que j'ai représenté ici, c'est donc la place Saint-Marc à Venise, avec deux cafés très connus, le Florian et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Et on a, alors évidemment, là j'ai un peu triché parce que clairement c'est pas le même jour que les photos ont été prises, mais on a souvent un effet connu qu'un restaurant est plein et sur la même place, celui qui est en face est vide, ou presque vide. Et on se demande toujours pourquoi. Et donc si on applique ce type d'idée à ces situations de choix de restaurant, grand H de T, ça va être à nouveau la qualité de la nourriture moins le prix du menu. Petit hi, la partie donc idiosyncratique, c'est ce qu'on appelle souvent le willingness to pay, donc c'est la propension à se rendre à un restaurant pour un prix donné. Mais ce qu'on introduit de plus dans la modélisation, c'est donc ce paramètre J qui est l'effet de pression sociale, donc l'attrait pour un restaurant plein simplement parce qu'il est plein. Donc là, soit parce que de façon, enfin, il y a un intérêt objectif à se montrer dans le restaurant à la mode, soit parce qu'on pense que les autres ont une information sur la valeur de la nourriture et que donc on donne du crédit simplement au fait que le restaurant est plein. Donc si on appelle phi le taux de remplissage du restaurant en question, le même modèle, un peu réhabillé différemment, conduit à une équation sur phi, une équation autocohérente, qui est que phi est égal à la probabilité que petit h, ce willingness to pay, soit supérieur au prix moins 2j fois phi. Donc, en quelque sorte, la popularité d'un restaurant abaisse son prix effectif, abaisse le prix effectif du menu. Alors, quand on essaye de résoudre cette équation autocohérente pour un choix particulier de distribution de petit h. Donc ici, on a pris une distribution qui est une distribution exponentielle pour des h positifs. Eh bien, on trouve deux types de courbes, à nouveau, dépendant de j. Donc en fait, de j comparé à gamma qui est à nouveau la largeur, qui joue le rôle de sigma tout à l'heure, qui est la largeur de la distribution des idiosyncratismes. Alors ce que vous voyez, c'est donc quand l'effet d'interaction est faible, on a une seule solution pour toute valeur du prix du menu, donc une solution qui est un restaurant plein jusqu'à une certaine valeur du prix qui est proportionnelle à J, et puis ensuite, progressivement, au fur et à mesure que le restaurateur augmente ses prix, les gens se détournent du restaurant en question. Mais quand on augmente J, et donc quand on dépasse cette valeur critique qui est donnée par 1 sur 2 gamma, on obtient à nouveau une courbe avec plusieurs équilibres, et en particulier une courbe qui a deux équilibres possibles pour une certaine gamme de prix que j'ai noté ici pour le modèle, bon, peu importe leur valeur précise. Et ce que vous voyez, c'est à nouveau une courbe qui va devenir hystérétique, c'est-à-dire que quand le restaurateur part d'un prix faible, il attire beaucoup de monde, il augmente son prix, et il augmente son prix jusqu'à un point terminal, au-delà duquel, tout d'un coup, cette solution de consommation élevée, enfin de fréquentation élevée du restaurant, disparaît, et donc est remplacé par une solution unique qui est la solution à faible fréquentation. Et donc ce que vous voyez, c'est à nouveau un effet aussi d'hystérèse, c'est-à-dire que maintenant si le restaurateur décide de rebaisser son prix pour refaire venir des gens, eh bien les gens ne reviendront pas au point précédent, au point où ils sont partis, ils reviendront plus tard, ils reviendront seulement quand le prix atteindra la deuxième valeur où ce cycle se ferme, P inférieur. Et donc on est conduit à une situation très intéressante du point de vue de l'optimisation. Donc quand si on essaye de raisonner en économiste, où on se dit que quelle stratégie doit suivre le restaurateur pour maximiser son profit, vous voyez qu'on est dans une situation étrange où effectivement, du point de vue du restaurateur, il est rationnel d'augmenter son prix jusqu'à cette valeur terminale 2J, puisqu'il peut le faire sans perte de clients. Simplement, sa popularité suffit à garder les clients fidèles, même à prix élevé. Mais le problème, c'est que ce point optimal est en quelque sorte au bord d'une falaise, puisque une très légère augmentation du prix au-delà de ce prix critique de J, et J est évidemment mal connu, c'est dans le modèle, on se l'est donné, donc il est connu, mais en pratique, si on veut y penser en termes de situation concrète, personne ne peut prétendre connaître précisément la valeur de J, la valeur de gamma, etc. Et donc on peut être dans des situations, et c'est l'intérêt de cet exemple simple ici, où l'optimisation rationnelle, disons, de son profit conduit à augmenter son prix jusqu'à un certain point, mais ce point est totalement instable, puisque au-delà de ce prix critique, on perd donc brutalement une partie de sa clientèle et donc un profit qui baisse considérablement. Et en plus, cet effondrement est irréversible, puisqu'il ne s'agit pas de revenir en arrière, on n'a pas le droit de tâtonner, on ne peut pas revenir en arrière et faire revenir sa clientèle si on s'est trompé, il faut réellement accepter une baisse substantielle du prix pour que les gens reviennent. Et lorsque vous voyez dans ce modèle, en plus, qui est dû au choix particulier donc, de la distribution Rho2H choisie, c'est que dans ce cas-là, il n'y a pas de signal précurseur. C'est-à-dire que le restaurateur ne peut même pas se fier à éventuellement une baisse locale de sa fréquentation pour se dire que le point de fonctionnement est dangereux. Ça se produit sans crier gare. Donc c'est ce que j'ai appelé une optimisation fragile. Et on a plusieurs exemples, et j'en donnerai d'autres à nouveau la semaine prochaine et la semaine d'après, où optimisation veut dire proximité d'une instabilité. Qu'on a à la fois optimisé le système, mais qu'on l'a poussé extrêmement proche, voire au seuil d'une instabilité. Et j'ai appelé ce phénomène d'optimisation fragile par analogie avec la rupture fragile dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc à nouveau, quand on prend un objet fragile comme une craie et qu'on la déforme, le moment où elle se rompt n'est précédé par rien. Alors on peut généraliser un petit peu ce modèle en incluant des effets, disons, d'irrationalité dans le choix des acteurs. Ici, dès que le signe de la somme de ces trois effets est positif, l'agent est censé basculer vers un choix S égale plus et vice-versa. On peut relaxer un petit peu cette hypothèse et donc, selon ce que les gens appellent la théorie du choix, en présence de soit d'irrationalité, soit d'incertitude sur le profit espéré, l'utilité, disons, d'un choix donné, on fait une décision, non pas de façon déterministe, mais de façon stochastique, avec une certaine loi de probabilité. La probabilité donc de choisir plus ou moins 1 est maintenant donnée, non pas par 0 ou 1, mais par une courbe continue qui vaut exponentielle de plus bêta UI quand on se pose la question de savoir si on choisit plus ou moins, si on choisit plus, pardon, et exponentielle de moins bêta ui si on choisit moins. Et donc, de façon évidente, si si est dans le même sens que ui, on a plus de chances de choisir si égale plus et vice-versa. Mais au lieu d'avoir un passage totalement discontinu, on a ici un passage arrondi avec un coefficient bêta qui est une mesure d'irrationalité, disons. Si bêta tend vers l'infini, on est toujours dans le choix optimal. Si bêta égale 0, on choisit aléatoirement sa décision sans prendre en compte cette somme d'incitation. Et si bêta est intermédiaire, ben on fait disons, partiellement attention à l'information donnée par ces trois termes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que toute cette phénoménologie dont je vous ai parlé, qui est une phénoménologie dite de température nulle, c'est-à-dire de bêta égale l'infini, résiste à l'introduction de ces choix irrationnels, résiste à la valeur finie de bêta. En fait, on a un diagramme de phase dans le plan sigma, donc sigma est la variance de rho de h et la température qui est 1 sur bêta. Donc la partie totalement irrationnelle est ici, la partie complètement rationnelle est là. Et donc le modèle précédent correspond à cette ligne de température nulle, où on avait vu qu'il y a un point critique au-delà duquel, donc si sigma est grand par rapport à J, on a une courbe d'adoption qui est en S classique, qui est continue. Et au contraire, si sigma est plus petit que J, ou autrement dit, si J est plus grand que sigma, on retrouve cette phase où on a ces sauts, ces discontinuités dans la courbe d'adoption. Et vous voyez qu'il y a donc, dans le diagramme température sigma, dans le diagramme bêta sigma, on a toute une phase ici où ces sauts subsistent. Donc on n'a pas besoin de supposer de façon très précise que les gens basculent immédiatement pour retrouver ces effets collectifs bien définis dans une phase entière du diagramme des phases. Alors, on peut aussi, dans le cadre de ces choix légèrement irrationnels, se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si le graphe dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était un graphe de champ moyen, concerne un nombre fini d'individus, ou si on place le modèle sur un graphe de connectivité fini, au lieu d'avoir tout le monde parlant avec tout le monde. Et dans ce cas-là, quelque chose qui est très important qui se produit, c'est qu'au lieu d'avoir une hystérèse infinie, c'est-à-dire une métastabilité de ces équilibres multiples qui persistent pendant un temps infini, on a une hystérèse qui n'est que transitoire. Au bout d'un certain temps qui peut être très long, le système finit par basculer vers l'état le plus favorable. Donc par exemple, si on revient sur cet exemple-là, dès que le champ H est positif dans ce modèle, l'état disons d'achat, l'état de consommation haute est favorisé, mais il est simplement inaccessible par la dynamique. Alors qu'au contraire, quand H est négatif, c'est réellement l'état de basse consommation qui est favorisé, mais il est inaccessible par la dynamique. En revanche, si on rajoute ces effets dynamiques et de température finie, en quelque sorte, c'est-à-dire de bêta non infini, au bout d'un certain temps qui peut être très très long, donc qui est exponentiel dans à la fois bêta et une quantité qui peut s'interpréter comme une espèce de barrière d'énergie entre deux minimums locaux, le système restera coincé dans cet état métastable. Donc toute la phénoménologie dont j'ai parlé peut rester identique, simplement si on attend très 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 longtemps, on la fera disparaître. Alors vous voyez que par exemple, dans un graphe en champ moyen, cette barrière B est proportionnelle à N, et donc dès que N est un peu grand, il n'y a de façon concrète aucune possibilité de basculer d'un état vers l'autre. Alors il faut comprendre que le franchissement de la barrière est lui-même un effet collectif. Donc c'est vraiment, comme j'en parlais la semaine dernière, c'est une succession de petits événements anecdotiques qui conduisent éventuellement au franchissement de la barrière et qui expliquent la raison pour laquelle ce temps de franchissement est exponentiellement grand. Et ça donne aussi des idées pour éventuellement essayer de catalyser cette transition. Si on veut forcer le système à aller vers l'état le plus favorable, il faut essayer de se débrouiller d'une façon ou d'une autre pour baisser cette barrière d'énergie, cette barrière effective, je parle en termes avec des termes de physicien ici, mais d'abaisser B Disons, par exemple, on pourrait imaginer que en promouvant des actions qui coordonnent les agents, donc ils leur font avoir des fluctuations d'opinion dans la même direction, on peut abaisser B et aider cette transition d'un état défavorable vers un état favorable. Alors, je voudrais parler maintenant d'effets spatiaux, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais un modèle sans espace. D'ailleurs, dans le modèle où tout le monde parle à tout le monde, il n'y a vraiment même pas de notion de proximité. Tout le monde est voisin de tout le monde. Alors que dans certains cas, on observe des effets spatiaux très bien caractérisés. Donc, je voudrais vous donner deux exemples ici. L'exemple étudié par le groupe de Beresticki-Nadal des émeutes en 2005, où on voit donc autour de la région parisienne l'intensité des émeutes avec un code de couleur différent. Et donc, vous voyez qu'il y a une répartition spatiale qui n'est pas du tout aléatoire. Et de façon frappante, quand on regarde les statistiques électorales, donc par exemple les taux de participation, ici il s'agit donc des élections européennes en 2004, donc on a plusieurs pays européens, en rouge les taux de participation élevés, et en bleu les taux de participation faibles, et en fait vous voyez que les couleurs observées n'ont rien d'aléatoire, il y a clairement des corrélations spatiales très fortes qui font que certaines régions traditionnellement votent beaucoup, et d'autres votent peu. Donc, dans le cas de cette statistique électorale, quelque chose qui est assez frappant, c'est que c'est la constatation suivante, c'est que si on regarde donc, la corrélation spatiale du taux de participation, donc si on traite ce taux de participation comme un champ qui est donc caractérisé par les coordonnées géographiques de la commune, on a donc une résolution à l'échelle de la commune, parfois même au niveau des bureaux de vote, eh bien, ce qu'on trouve, c'est donc une corrélation spatiale qui décrit justement le fait qu'on n'a pas du tout une variable aléatoire décorrélée, dans ce cas-là, on le voit à l'œil, mais si on essaye de quantifier ce qu'on voit à l'œil, eh bien, on voit une décroissance logarithmique de cette autocorrélation du taux de participation à une élection donnée, qui ne dépend pas de l'élection et qui ne dépend pas du pays considéré. Donc, par exemple, dans le cas français, l'axe des X, c'est la distance entre deux communes en échelle logarithmique, et l'axe des Y, c'est donc la fonction d'autocorrélation du taux de participation au point I et au point J, le point I et le point J étant séparés d'une distance petit r. Et donc, le fait de trouver que donc, cette courbe est droite en coordonnées semi-logarithmiques veut dire qu'on n'a pas du tout une décroissance exponentielle, mais une croissance, au contraire, une décroissance très très lente, une décroissance du type A moins log de la distance. Et il se trouve que donc d'autres auteurs ont observé la même chose dans d'autres pays. Ici, vous voyez des données pour des élections aux États-Unis, et je vous montrerai un peu plus tard des données pour d'autres pays européens. Alors, si on veut essayer de comprendre comment ces corrélations peuvent apparaître, on peut essayer de faire un modèle phénoménologique sur l'évolution des idiosyncrasies locales. Donc, petit h reste le même petit h dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la propension des gens à aller voter, si vous voulez. Et donc, l'observation qu'on peut en avoir via ces taux de participation, ce sont des moyennes locales sur des communes des taux de des propensions individuelles HI. Donc HA, c'est la moyenne sur une commune appelée A des propensions des différents habitants de cette commune. Alors si on suppose qu'au cours du temps, cette propension évolue via deux types de phénomènes, le premier, c'est donc des chocs idiosyncratiques qui affectent une commune donnée et qui font que pour des raisons qu'on n'essaye pas de décrire ici, la population dans son ensemble a plus envie ou a moins envie d'aller voter à cause d'un certain nombre d'événements qui peuvent être locaux à la commune donnée. Mais la chose importante, c'est que les gens communiquent entre eux, se voient, s'influencent, et donc on essaye de prendre en compte cet aspect influence en supposant qu'on a un noyau d'interaction qui décrit le fait que finalement les gens ne parlent souvent qu'avec des habitants qui habitent proches de chez eux. Donc un certain noyau qui dépend de la distance entre les communes et qui ont tendance à rapprocher les propensions à aller voter d'une commune à l'autre. Donc le fait de discuter avec votre voisin dans ce modèle suppose que vous allez le convaincre d'aller voter ou au contraire vous allez le convaincre que voter ne sert à rien. Et donc en moyenne, cet effet tend à rapprocher petit h A de petit h B où B est voisin de A, le voisinage étant décrit par cette fonction F. Alors il se trouve que si on change d'échelle et qu'on regarde cette équation phénoménologique à une échelle disons grande par rapport à la portée de l'interaction, eh bien on se rend compte qu'on est en train de décrire ce qu'on appelle une équation de diffusion à deux dimensions bruitée, qui est aussi appelée dans la littérature physique l'équation d'Edwards-Wilkinson, et qui conduit à l'équilibre à la statistique de ce qu'on appelle le champ libre. Et il se trouve qu'effectivement, en ne supposant rien d'autre, on sait qu'à deux dimensions, qui est le problème considéré ici, ce type de dynamique génériquement conduit à des corrélations logarithmiques. Donc vous voyez que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de beaucoup d'hypothèses pour conduire naturellement le système à développer des corrélations logarithmiques. C'est simplement une propriété d'une diffusion locale à deux dimensions qui, de proche en proche, se transmet et conduit à ces corrélations qui décroissent très lentement. Alors on peut essayer d'être plus précis et de faire des simulations numériques, non pas en supposant donc une équation bidimensionnelle de diffusion, mais réellement en prenant la carte de France et en prenant en compte la localisation de chaque commune et en simulant ce type de modèle. Et ce que je vous ai représenté ici, c'est en gris, alors désolé, on ne voit pas très très bien, en gris avec des barres d'erreur, ce sont les simulations numériques de cette fonction d'autocorrélation du taux de participation à un vote donné, en supposant que la fonction F, donc que grosso modo la portée des interactions, la distance parcourue par les agents pour discuter entre eux est de l'ordre de quelques kilomètres. En fait, on a choisi une fonction f qui décroît exponentiellement avec une longueur caractéristique qui est ici 4,5 km. Et on arrive à reproduire les courbes non seulement en France, mais dans d'autres pays, simplement en changeant d'échelle pour les autres pays, en ramenant toutes ces distances à la taille du pays. C'est-à-dire qu'évidemment, dépendant... Et c'est une des prédictions de ce modèle de diffusion logarithmique à deux dimensions, c'est que l'échelle de la taille totale du pays importe, et que donc pour avoir une courbe universelle, il faut compter les distances en échelle de la taille totale grand L du pays. Et vous voyez que donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ici on a toute une liste de pays différents où on voit la même phénoménologie d'une décroissance très lente de type logarithmique du taux de participation. Alors, dans le cas des émeutes, le groupe de Nadal Beresticky a proposé donc d'écrire l'apparition d'une émeute un peu dans le cadre de modèles de propagation d'épidémies, donc de ces modèles SIR dont on a beaucoup parlé récemment à l'occasion du Covid. Et donc, chaque commune est décrite par un modèle SIR local. Et ils ont introduit en plus un couplage entre ces modèles SIR pour justement décrire la propagation des émeutes d'une commune à l'autre. Et ce que je vous ai représenté ici donc, est tiré de leur papier. C'est donc la dynamique observée de la propagation d'émeutes à partir de Clichy-sous-Bois, qui est le site de démarrage en quelque sorte. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, on a une propagation de ces émeutes sur des communes voisines. Et donc, vous voyez ici, en code couleur, l'amplitude des émeutes et le temps qui passe. Donc, plus on va vers le bas et plus le temps passe. Et puis, la vague finit par s'éteindre. Et donc, les données réelles sont à gauche et les données simulées à partir de leur modèle calibré est à droite. Et donc, on voit à nouveau comment on peut essayer, par des modèles très simples de couplage locaux, arriver à décrire des effets de propagation, soit de propension, disons un peu statique, les gens la propension à voter n'est pas un objet qui varie très très vite dans le temps. On peut aussi d'ailleurs essayer d'étudier la dynamique temporelle de cette propension à voter en comparant différentes élections à différents moments du temps, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Et dans le cas des émeutes, on peut justement se servir de ces modèles pour comprendre la diffusion spatiale de ces événements. Et pour en savoir plus, je vous conseille de lire l'article qui est dans les références. Alors enfin, je voudrais vous parler rapidement d'un modèle qui est maintenant bien connu, qui est le modèle de Schelling de ségrégation, parce que je trouve qu'il a tout à fait sa place dans cette liste d'exemples d'effets inattendus et de discontinuités. Et donc, dans la version du groupe de Lyon, Grovin, Bertin, Lemoy, Jensen, ce modèle de ségrégation de Schelling est retranscrit de la manière suivante. Chaque agent vit dans un quartier d'une ville de densité locale rho, et l'utilité de chaque agent est maximale quand rho vaut 1,5. Donc, par exemple, voilà un exemple de fonction d'utilité qui atteint un maximum pour rho égale 1,5, c'est-à-dire un quartier à moitié rempli. Donc l'idée qualitative, c'est qu'un quartier presque vide n'est pas agréable parce qu'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de café. Et un quartier trop rempli n'est pas agréable non plus parce qu'on a du mal à circuler, à se garer, etc. Bon. Donc si on part sur ce type de modélisation et qu'on suppose une fonction d'utilité qui a un maximum pour une densité 1,5 et puis qui a une forme un peu quelconque, ici une forme en linéaire par morceau, non nécessairement symétrique, donc le point rho égale 1 n'est pas forcément à la même hauteur que le point rho égale 0, mais les conclusions de l'analyse sont très générales, elles ne dépendent pas du choix particulier de cette fonction U de rho. Donc, en suivant cette théorie du choix dont je vous parlais tout à l'heure dans le cas du RFIM à température finie, chaque agent peut choisir de déménager vers un autre quartier de densité différente, rho prime, avec une certaine probabilité qui est donnée par cette fonction ici, 1 sur 1 plus exponentielle de bêta U de rho moins U de rho prime, ce qui veut dire, si bêta est très très grand, que si le quartier cible a une densité qui permet à l'agent d'augmenter son utilité, il ira presque certainement, sinon il reste sur place. Et donc le modèle est par ailleurs spécifié de manière telle qu'en principe, tous les agents devraient être capables de maximiser leur utilité puisque la densité moyenne de la ville est égale à 1,5, ce qui permettrait en principe à tous les quartiers d'être remplis optimalement pour chaque agent, du point de vue de chaque agent. Donc l'histoire est bien connue maintenant, mais je la rappelle. Si on itère cette dynamique, ce n'est pas du tout ce qui se passe. On part d'une configuration où tous les agents sont en principe satisfaits, mais il y a des petites fluctuations qui font qu'un agent donné choisit de déménager du quartier où il se trouve pour rejoindre un autre quartier. De ce fait, la densité du quartier qu'il quitte baisse un peu, donc devient moins favorable pour ceux qui restent, et cet effet peut donc faire boule de neige et conduire, et d'ailleurs il conduit cet effet, à un état stationnaire où, au contraire d'une densité uniforme qui favorise tout le monde, on a un certain nombre de quartiers qui sont complètement vides et d'autres quartiers qui sont surpeuplés. En fait, dans ce modèle, la densité vaut 1 sur racine de 2, qui est plus grande que 1,5. Et donc, ils ont en quelque sorte la main invisible d'Adam Smith qui est censée faire en sorte que la décision individuelle de chaque agent conduit à un optimum collectif s'effondre complètement, puisque ce n'est pas du tout l'état qu'on obtient dans ce modèle. Alors, on peut aider les choses. Donc ici, c'est un diagramme de phase en fonction de deux paramètres. Petit m qui est la hauteur du minimum pour rho égale 1. Et puis alpha qui est un paramètre supplémentaire que les auteurs ont introduit, qu'ils interprètent comme une espèce de taxe qui pénalise les mouvements qui défavorisent les autres agents. C'est-à-dire que dans la dynamique que je vous ai présentée, chaque agent ne prend en compte que sa propre utilité pour décider de déménager ou non. on peut le forcer en quelque sorte à considérer aussi l'état dans lequel il laisse le quartier qu'il quitte et l'état du quartier vers lequel il va pour biaiser son choix, justement, donc en prenant en compte en quelque sorte l'intérêt collectif au détriment de son intérêt individuel. Et ce qu'on voit dans ce modèle, c'est que l'utilité moyenne, l'utilité collective, donc qui est ici à un niveau très bas dans cet état ségrégé, arrive à augmenter en fonction de alpha. Donc alpha, c'est cette direction ici. Donc si on part d'un système symétrique, m égale 0, donc une tente parfaitement symétrique pour cette fonction d'utilité, on arrive à aider le système à rejoindre l'état collectif optimal, qui est donc l'état A, l'état de densité uniforme, en augmentant cette taxe suffisamment. Donc il faut effectivement que alpha soit suffisamment fort, mais on arrive à le faire, disons, avec un alpha fini. Voilà, donc je voudrais conclure ce cours par quelques observations et en rappelant ce dont je vous ai parlé. Donc finalement, le fil rouge du cours, c'est ce qu'on peut appeler des tipping points, des points de basculement. Et je vous rappelle ce que Barack Obama avait déclaré donc en janvier 2009, quelques mois après le déclenchement de la crise de 2008, qui était apparu réellement comme une surprise pour beaucoup, puisque rien réellement du point de vue macroéconomique ne laissait présager un tel effondrement de la confiance. Et donc il admettait sa perplexité en disant « Our workers are no less productive than when this crisis began. » Our minds are no less inventive, our goods and services no less needed than they were last week. Ce qui veut dire que, du point de vue, disons, des fondamentaux, rien n'avait changé, et pourtant tout avait changé parce que la confiance avait disparu. Et donc cet effet potentiel de disparition brutale de la confiance, qui est vraiment un effet collectif, peut avoir des conséquences très très importantes, et il me semble que ce genre de petit modèle simple dont je vous ai parlé permet d'éclairer ces phénomènes collectifs qui peuvent être détrimentaux pour tous autant que nous sommes. Donc, pour résumer, je vous ai proposé des modèles où on voit que dans le cas d'agents hétérogènes sans interaction, on a un comportement agrégé continu, des courbes d'adoption en S, mais qu'en présence d'interaction ou d'imitation, on peut faire apparaître des discontinuités, des basculements, donc des tipping points, des points où il ne se passe rien, mais où, malgré tout, le système bascule d'un état vers un autre. Le fameux random fieldizing model est un modèle très très simple, mais qui est très riche, qui a une capacité à unifier un certain nombre d'observations et à leur donner un sens qualitatif, précis et parfois quantitatif, puisqu'on peut essayer de calibrer ce modèle sur des données. Et l'enjeu, c'est in fine d'essayer de séparer les effets exogènes des effets endogènes. Donc par exemple, je vous ai parlé de l'explosion du nombre de Stéphanie en France. Quelle est la partie exogène? Quelle est la partie imitation de... Enfin, disons, influence de la princesse de Monaco? Et qu'est-ce qui est l'effet endogène, c'est-à-dire de l'accélération d'origine sociale qui conduit à ce pic impressionnant du nombre de Stéphanie en 1972. Et donc, je vous ai parlé de cas où on peut réellement faire une analyse quantitative, comme la vente des livres sur Amazon ou les vues sur YouTube, ou sur les sauts de prix dans les marchés financiers. Et dans ce cas-là, les modèles de Hawkes dont j'avais parlé au cours numéro 1 sont extrêmement intéressants, justement pour essayer de séparer de manière quantitative les effets endogènes des effets exogènes. Et puis je vous ai parlé de situations donc, à la suite de cette analyse du RFIM, où on voit apparaître des situations d'optimisation que j'appelais fragiles, ou cliff edge optimization, et donc j'en reparlerai au cours numéro 8, donc dans le dernier cours de cette série, où la volonté d'optimiser ou l'objectif d'optimisation est un peu contradictoire avec l'objectif de stabilité du système considéré. Alors il est clair que Ces courbes d'adoption sont importantes dans différents contextes, dans des contextes qu'on pourrait qualifier d'ingénierie sociale. La vaccination, promouvoir la vaccination et faire en sorte que la population dans son ensemble y adhère, ou au contraire éviter qu'elle s'en détourne. On est pile dans le sujet à l'heure actuelle. L'adoption de comportements d'hygiène, par exemple de faire bouillir l'eau avant de s'en servir, est aussi un effet où on se rend compte que le bouche à oreille, les effets de pression sociale sont très forts, soit font que les populations ne croient pas ou ne veulent pas se conformer à ces règles d'hygiène, soit au contraire les adoptent. Ce sont des effets qui, effectivement, proviennent à la fois de l'information publique, mais les effets d'imitation, les effets d'interaction sociale sont extrêmement forts. L'acceptation des règles, donc ce qu'on appelle le nudge, d'essayer de faire en sorte que les gens portent des masques, se conforment à vitesse limite sur les routes, payent leurs impôts. Donc il y a un exemple qui a été d'ailleurs discuté dans un article du Monde hier, où le simple fait de dire que 90% des gens payent leurs impôts à l'heure fait baisser les retards de paiement des impôts. Donc effectivement, la pression sociale est un effet très fort, on le sait tous, et on peut s'en servir à bon escient ou à mauvais escient. On sait qu'il y a des effets sociaux importants dans la propagation de la délinquance, de la criminalité, c'est documenté. Je vous ai parlé donc de la propagation des meutes. Je vous ai parlé d'effets collectifs, de clairs effets de corrélation dans les taux d'abstention. On aurait pu aussi analyser... L'abstention, c'est intéressant parce que c'est neutre en quelque sorte. On peut s'intéresser au taux d'abstention, même dans des élections où on a plusieurs candidats, alors qu'effectivement, dans des élections où on a plusieurs candidats, ça sera plus difficile d'analyser les corrélations de polarisation politique. Dans des élections de deuxième tour d'élections présidentielles, par exemple, c'est plus facile. Si effectivement on étend cette analyse que je vous ai présentée pour les taux d'abstention, on voit le même type d'effet de corrélation, de polarisation politique en France et ailleurs. Et donc je pense que c'est vraiment intéressant de comprendre d'où peuvent provenir ces effets de corrélation spatiaux non triviaux. Convention sociale, on voit aussi des basculements d'opinion ou de perception de certains problèmes sociaux qui sont extrêmement brutaux. Par exemple, l'avènement du mouvement MeToo depuis quelques années a une violence et une rapidité qui fait penser que tout était là en quelque sorte, mais qu'il fallait le tipping point, il fallait dépasser un certain point seuil pour que réellement ces phénomènes deviennent globaux. Et donc pour comprendre ces effets de propagation, je pense qu'il y a une piste qui a été évoquée par Schiller récemment dans son livre qui s'appelle Narrative Economics, sur le fait que ce qui propage en fait l'information, ce qui fait que les gens peuvent changer d'opinion, c'est aussi la qualité des récits. C'est la façon dont les gens se parlent, le récit, le narratif, est le vecteur de la propagation de ces opinions ou de ces polarisations, et que donc s'intéresser à ces récits est une façon aussi de progresser dans la modélisation de ces phénomènes collectifs. Voilà, je vous remercie et je vous incite... Ah oui, j'ai oublié de vous parler de, bien sûr, de ce qui vient juste après. Désolé. Donc il y a les références à ce cours, comme d'habitude, c'est sur la page d'accueil. Et puis, je vous incite donc à rester pour le séminaire d'Irénée Giardina, Collective Behavior in Animal Groups, donc, où elle va vous parler justement de ces effets d'imitation dans la façon dont les oiseaux ou les insectes volent de manière collective. Bien sûr, vous pourrez le regarder sur Internet sinon, mais sinon, disons dans 10 minutes, on recommencera la session. Merci.